Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Bonsoir à tous, bienvenue, 2 heures d'infos et de débats, c'est Europe Soir, il est 18h. Et au sommaire, la révocation du droit à l'avortement aux États-Unis. Depuis 24 heures, l'Amérique est divisée et les mois secouent le monde entier. Nous serons à New York dans un petit instant et nous recevrons le constitutionnaliste Didier Mauss. L'idée est d'inscrire ce droit dans la Constitution française, comme le propose la majorité. Est-elle réalisable ? On en parle. Ce sera aussi l'un des objets de discussion à 18h30 aujourd'hui entre Othmane Nasrou, DLR, et Eduardo Riancipel de Territoire de Progrès. Les usagers de la SNCF vont-ils encore dire qu'ils sont pris en otage ? Et les cheminots leur rétorquaient qu'ils fassent attention aux mots employés. Quoi qu'il en soit, les trains ne rouleront pas le 6 juillet. Première semaine de juillet et donc à l'aube des grandes vacances d'été. Le détail à suivre. Dans ce journal également, des vendeurs de vêtements qui commencent sérieusement à penser à une reconversion. Tellement les soldes qui viennent de démarrer ne prennent pas. Soldes sur internet toute l'année, période Covid, inflation. Les petits commerçants sont au bout du rouleau et au bout d'un modèle économique qui ne trouve plus sa place. Reportage à suivre. Et puis Wimbledon, ça commence lundi. Exit les tenues bariolées, place au blanc, c'est d'usage. Mais c'est pas le blanc cette année la nouveauté. Au contraire, c'est l'absence de tout joueur russe ou bélarusse en réaction à la guerre en Ukraine. 18h15, l'invité politique, c'est Jean-Christophe Cambadélis. Que dit l'ancien baron du PS quand il voit la façon dont son parti va exister ou pas au sein de la NUP? Il était venu ici même pousser un sérieux coup de gueule au moment des négociations, souvenez-vous. Le voilà de retour, on a bien envie de savoir ce qu'il pense. 18h30, ça fait débat. 19h, un nouveau journal. 19h15, tout autre chose, le pianiste de jazz Édouard Ferlet est en tournée en ce moment. Unique en son genre, il transforme les partitions, transforme son piano. Même en y rajoutant des artifices, son dernier album Pianoïde vaut le coup d'œil ou le coup d'oreille. Je vous le garantis. 19h30, panorama. La France fait-elle encore rêver? Le Louvre, la Joconde, la Tour Eiffel, oui. La gastronomie, le savoir-faire, le savoir-vivre, oui. Le luxe, les parfums, la maroquinerie, la mode, oui. Les start-up, les licornes, bien sûr. Mais le nouveau clivage politique, les violences au Stade de France, les gilets jaunes, le classement scolaire, comment redonner du souffle à la France? On en parle tout à l'heure. Et donc pour commencer, depuis 24 heures, les États-Unis sont soulevés par la décision de la Cour suprême en renversant l'arrêt Roe contre Wade datant de 1973. Les juges reviennent à la législation d'il y a 50 ans, à savoir chaque État fédéré décidant ou non d'interdire ou d'autoriser l'avortement. Le Missouri a été le premier État a emboîté le pas hier soir. 7 autres pourraient suivre, notamment ceux où déjà l'avortement n'est pas autorisé au moment où l'on entend le cœur du bébé. Joe Biden a parlé de tragédie pour l'Amérique. Donald Trump, qui avait placé les juges conservateurs à la Cour suprême, évoque la volonté de Dieu. Depuis hier, 2 Amériques s'opposent. Sachant que 6 femmes sur 10 veulent avoir le droit à l'avortement dans le pays, Alexis Guilleux est l'un des correspondants d'Europe 1 aux États-Unis. À New York, ce sont les pro-avortements qui ont défilé dans la colère et l'amertume. Reportage.
Autour de l'université de New York, au cœur de Manhattan, le choc est rude à encaisser, admet Sophia. Elle a tout juste 20 ans.
Je suis triste et en colère. Je n'aurais jamais pensé devoir mener le même combat que ma grand-mère. Mais je me bats pour celles qui un jour auront 20 ans et pour mes futurs enfants.
Comme toutes les Américaines, Rachel s'attendait à cette décision, pancarte « Mon corps, mon choix » à la main. Elle est très amère vis-à-vis de la Cour suprême.
On nous dit que les États ne peuvent pas prendre de décision sur le port d'armes, mais qu'ils peuvent décider si on a le droit de porter un bébé. C'est hypocrite, tellement politique. Ils n'ont aucun code moral. Cette Cour ne fonctionne pas comme elle le devrait pour protéger le droit des Américains.
Alors toutes savent que le droit à l'avortement reste garanti à New York, mais ce ne sera plus le cas dans près de la moitié du pays, comme au Texas, où Anna est née et a grandi.
C'est effrayant de se dire que quand je vais rentrer à la maison, je n'aurai pas accès aux mêmes soins qu'à New York. Ça me donne vraiment envie de vivre ailleurs, là où je pourrais recevoir les soins dont j'ai besoin. L'avortement, c'est une question de santé.
Et puis ces milliers de personnes rassemblées, c'est aussi une manière de garder espoir. Nous n'avons pas le choix, nous allons trouver une solution, confie Jackie, venue au rassemblement avec ses 2 jeunes filles. New York, Alexis Guilleux, Europe 1.
Et notez également que le juge Clarence Thomas, dans son arrêt, s'interroge désormais à reconsidérer d'autres droits aux États-Unis comme la contraception, le droit à l'homosexualité et le mariage gay. En France, Emmanuel Macron a déploré la remise en cause des libertés des femmes. Aujourd'hui, la majorité présidentielle souhaite inscrire le respect de l'IVG dans notre Constitution. Décision dont se félicite et qu'accompagne de ses voeux la Première ministre Elisabeth Borne. Bonsoir Didier Mauss.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, professeur de droit constitutionnel. Comment peut-on inscrire ce respect, je reprends les mots de la majorité, ce respect à l'IVG dans la Constitution ?
Bah écoutez, techniquement, c'est relativement facile. Il faut faire voter une loi constitutionnelle disant que le respect de l'IVG fait partie des droits constitutionnels. On peut trouver différentes rédactions. Il y avait déjà eu une tentative il y a quelques années. Elle n'avait pas abouti. Donc, j'allais dire, techniquement, on n'a pas de difficulté. La vraie question est de savoir si on en a besoin juridiquement. Politiquement, je comprends parfaitement l'émotion qu'il y a aujourd'hui et je me range parmi tous ceux qui critiquent fortement la décision de la Cour suprême d'hier. Mais juridiquement, en France, on est dans une situation complètement différente. Et je relisais il y a quelques instants la décision du Conseil constitutionnel du 15 janvier 1975 sur la loi Veil.
Oui.
Bon, la loi relative à l'interruption volontaire de la grossesse ne contredit pas les textes auxquels la Constitution du 4 octobre 1958 fait référence dans son préambule, non plus qu'aucun des articles de la Constitution. On ne peut pas être plus clair et cette jurisprudence n'a pas été remise en cause et il n'y a aucune raison qu'elle soit remise en cause.
Ça veut dire que la Constitution, avec cet extrait dont vous venez de lire, suffit d'une certaine manière. On n'a pas besoin de rajouter quelque chose ?
Ah bah écoutez, juridiquement, on n'a absolument pas besoin de rajouter quelque chose. Après, il y a le problème politique, il y a le problème, effectivement, de relations, il y a la très forte émotion qu'il y a, mais vous l'avez souligné dans le reportage, je dirais, aux États-Unis, il y a 50 lois différentes sur ce genre de sujet. En France, il n'y en a qu'une. Bon, et une, elle a été jugée conforme à la Constitution en 1975, et vraiment, je ne vois pas ce qui pourrait conduire à remettre en cause cette décision du Conseil constitutionnel. L'IVG est conforme à la Constitution. On peut toujours faire plus, mais ce n'est pas une obligation juridique.
Merci beaucoup Didier Mauss, merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. L'autre actualité, c'est la grève chez Ryanair, vous êtes peut-être concerné, mais surtout à la SNCF. Et là encore, les cheminots ont choisi le début des vacances d'été pour se faire entendre sur leurs préoccupations salariales, puisque ce sera le 6 juillet prochain, Guillaume Dominguez.
Oui, l'appel a été lancé hier soir par un communiqué des trois principaux syndicats, la CGT Cheminots, la CFDT et Sudrail. Les cheminots demandent une hausse des salaires pour faire face à l'augmentation du coût de la vie. Éric Meyer est secrétaire fédéral du syndicat Sudrail.
Les cheminots, comme tous les salariés, subissent de plein fouet l'inflation, la hausse des prix, la hausse de l'énergie. Et en face de nous, on a des entreprises qui font des bénéfices records et qui ne redistribuent pas aux salariés. Il faut savoir que l'année dernière, la SNCF a gagné 1 milliard d'euros.
Alors la grève tombe en pleine semaine de départ en vacances. La faute à la direction, selon les syndicats, qui n'a pas accepté de les rencontrer plus tôt. Faux, selon Michel Kidor, vice-président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Pour lui, les syndicats instrumentalisent une nouvelle fois les usagers pour peser sur les discussions.
Le 6 juillet commencent les négociations à la SNCF. Et ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que sans attendre le début des négociations, le 6 juillet, on est le 25 juin, les syndicats ont déjà décidé que ça n'irait pas. Donc il y a trois syndicats qui disent on arrête le travail avant même que les négos aient commencé. Ce qui est quand même proprement scandaleux. Il faut laisser une chance à la négociation et comme tel, laisser une chance aussi aux voyageurs.
La FNOT demande de son côté à la SNCF de mettre en place un service minimum pour permettre aux usagers de voyager malgré la grève.
Merci de ces précisions, Guillaume Dominguez. 18h08, vous restez avec nous dans un instant. Premier week-end des soldes et les commerçants ont de la peine. Certains envisagent même de jeter l'éponge. À tout de suite.
Europe Soir Weekend, informez-vous avec Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
Ouais, et le temps n'est pas propice à aller s'acheter des sandales ou une petite robe d'été. Le temps, mais pas que, hein, l'inflation, les promos toute l'année sur Internet, la nouvelle tendance aussi du vêtement durable. Résultat, les petits commerçants baissent les bras et certains envisagent une reconversion alors que justement ce sont les soldes. Reportage Arthur Pereira.
Ce début des soldes, mais c'est pas des soldes, c'est rien du tout, c'est catastrophique.
Derrière son comptoir en bois, un cintre entre les mains, Monsieur Lalou est révolté. Propriétaire d'une boutique de prêt-à-porter depuis 34 ans, il n'a jamais vu ça.
Il n'y a pas de clients, les gens sont pas là, ils sont pas intéressés. La problématique, c'est qu'il y a trop de promotions avant. Il faut arrêter de faire des ventes privilèges, des ventes privées, il faut arrêter tout ça.
Des promotions en cascade et cela toute l'année, des méthodes d'achat qui ont aussi évolué. Les Parisiens sont donc moins nombreux à faire les soldes.
Quand j'ai besoin de vêtements, j'y vais. Là, je n'ai pas besoin de vêtements, donc je ne vais pas y aller.
J'achète quand même beaucoup plus en ligne parce que c'est plus facile, il n'y a pas besoin de se déplacer.
Je préfère investir dans les travaux de ma maison par exemple ou alors faire des économies.
Des commerces de proximité qui souffrent, Moins 70% d'activité par rapport à 2019 pour Sonia, gérante d'un magasin de chaussures. Pour elle, une seule issue possible.
Là, la seule chose à faire, c'est de vendre et d'essayer de faire autre chose, mais pas le commerce, parce que c'est fini.
L'année dernière, la commerçante a même dû se séparer de deux de ses employés.
Voilà Arthur Pereira pour ce début des soldes très morose pour les petits commerçants. En bref, à l'étranger, la piste terroriste privilégiée en Norvège après la fusillade de la nuit dernière à Oslo. Deux morts, 21 blessés près d'un bar gay. L'auteur est connu des services de l'antiterrorisme. La guerre en Ukraine avec des combats de rue cet après-midi à Lysychansk, tout près de Severodonetsk. Et puis cet urgent qui vient de tomber avec cette déclaration de Vladimir Poutine qui dit que Moscou va livrer dans les mois prochains au Bélarus des missiles capable de transporter des têtes nucléaires. Le sport avec le tennis, la française Caroline Garcia décroche son premier titre depuis 3 ans en remportant le tournoi de Bad Hombourg. Wimbledon, c'est lundi, sans les Russes et sans les Bélarusses. Décision du tournoi pour affirmer le soutien aux Ukrainiens. Consternation au niveau de certains joueurs, dont accessoirement le numéro 1 mondial, Daniil Medvedev. Mais le joueur avait anticipé, il s'était exprimé là-dessus le 26 mai dernier. C'était à Roland-Garros. Écoutez.
Pour l'instant, je ne sais pas ce qui va se passer. Je le répète, si je peux jouer à Wimbledon, je serai heureux d'y être, même sans points. Avec des points, je serai heureux d'y être et d'essayer d'en obtenir. Si je ne peux pas jouer, je vais rester à la maison, m'entraîner dur et essayer d'être meilleur pour mes prochains tournois. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment.
Voilà, c'est tout ce qu'il avait à dire pour le moment, Daniil Medvedev, qui donc regardera Wimbledon à la télé, sauf bien sûr s'il peut jouer. La météo, Valérie Darmon, encore des orages ?
Encore des orages et encore des vigilances orange avec 15 départements en alerte. L'axe orageux de l'Occitanie à la Champagne-Ardenne est en train de s'organiser. Les précipitations sont déjà passagèrement soutenues, mêlées d'un coup de tonnerre entre le nord de l'Aquitaine et le centre Val-de-Loire et puis entre le centre et le bassin parisien tout à l'heure. La perturbation pluvio-instable va ensuite progresser au fil de la nuit vers justement ces régions du nord-est, c'est-à-dire Bourgogne, Champagne et Ardenne. C'est en première partie de nuit que ces orages vont se décaler. Demain, le ciel va rester très instable, très pluvieux aussi du sud-ouest aux frontières de l'est, en passant par le massif central et la région Rhône-Alpes. Il va continuer de pleuvoir beaucoup sur le massif central. Et à l'arrière de cette perturbation, c'est-à-dire sur les régions du nord-ouest, vous allez retrouver quelques belles éclaircies. Même situation d'ailleurs en Nouvelle-Aquitaine.
Merci Valérie Darmon, 18h13. Vous restez avec nous dans un instant. Il était très en colère contre ses amis du PS qui pactisaient avec la NUP. Il y a quelques semaines, c'était dans ce studio, Jean-Christophe Cambadélis, l'un des derniers premiers secrétaires du PS, est notre invité politique. Il revient, il est là.